Seb, comment vas-tu?
Ça va très bien, Émile. Car on part en road trip et on amène notre cabaret des curiosités du web dans plusieurs villes du Québec au cours des prochains mois. Dans ces shows live, on explore de drôles d'histoires qui parfois nous font rire et parfois nous terrorisent. Les histoires changent à chaque show.
Le tout débute à Gatineau le 27 avril dans le cadre du Festival Transistor. Après, on se retrouve à Shawinigan le 13 juin au Wabasso avec nos amis de Côté Sombre. Et le 11 juillet, on se retrouve à Longueuil dans le cadre du Comic Fest à la salle Fanplast. Les billets sont en vente pour tous ces shows-là et d'autres dates risquent de s'ajouter sous peu, donc restez à l'affût.
Rendez-vous au distorsionpodcast.com pour connaître toutes nos dates et vous procurer des billets. Si vous souhaitez que Distorsion passe faire un tour dans votre région, écrivez-nous. On a vraiment hâte d'aller à votre rencontre.
De retour à votre programme principal.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
She felt guilty. She felt like she had cheated on Amber, I guess you could say. And she felt like she was, I guess, a bad person for doing it.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Décembre 2015, Caitlin Akins, âgée de 19 ans, va visiter sa famille en Virginie.
Alors qu'elle doit prendre un vol pour retourner chez elle quelques jours plus tard, Caitlin va disparaître alors qu'elle est en route vers l'aéroport.
Au fil de cette journée fatidique, plusieurs messages textes étranges vont être envoyés, semant le doute sur l'identité de l'interlocuteur.
La clé de ce mystère réside dans un téléphone encrypté impossible à déverrouiller et un suspect toujours insaisissable.
Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va bien aussi parce qu'on aborde un cas de disparition dont on discute depuis longtemps,
oui.
Celui de Caitlin Akins, une jeune fille de 19 ans, encore une fois avec un avenir prometteur, une jeune fille intelligente qui avait des bons projets pour son avenir, puis on sait pas trop qu'est-ce qui lui est arrivé là, cette journée de décembre 2015 alors qu'elle devait rentrer chez elle. Elle était en visite dans sa famille en Virginie et elle devait rentrer chez elle le soir même en Arizona, donc en route vers l'aéroport, il semble s'être déroulé quelque chose d'encore inexplicable. Puis ce qui est particulier là-dedans, c'est qu'on a un suspect qu'on n'arrive pas à lui mettre la main dessus.
Oui, malgré tout ce que les autorités ont pu enquêter, ils n'ont aucun moyen de le coincer, même si, disons, toutes les circonstances pointent vers lui. Ils n'ont aucun moyen légal de le prendre et de le coincer. Donc, lui, il vogue à sa vie au quotidien. Et les enquêteurs sont devant un peu le néant, devant toute cette histoire-là qui date de 3 ans. Là.
Oui, puis on connaît pas de mobile possible. C'est très nébuleux de ce côté-là. Puis au centre de tout ça, on trouve finalement le téléphone intelligent de ce suspect-là qui est encrypté, que plusieurs agences ont tenté de percer. Puis toujours aucun résultat là, plusieurs années plus tard.
Oui, parce qu'on le sait, hein, un téléphone encrypté, c'est fait pour être protégé pour vrai. Là, puis justement, que la décryption soit pratiquement impossible, sauf par la personne qui possède la clé. Et les compagnies de téléphones intelligents, ils veulent pas, disons, ouvrir une porte à ce que n'importe qui ou les autorités puissent ouvrir un téléphone sans avoir la clé, parce que sinon là, ça ouvre une brèche de la vie privée, hein, parce que s'ils laissent une porte ouverte, ben ça veut pas dire que c'est juste les autorités qui pourraient rentrer sur votre téléphone protégé. Là, ça peut être les hackers, ça peut être n'importe qui. Donc il y a toujours ce combat-là de la justice à vouloir utiliser le téléphone encrypté d'un peut-être criminel pour trouver des preuves, des traces. Mais de l'autre côté, il y a l'individu, puis il y a le droit, pas à la liberté d'expression, mais le droit à la vie privée que l'individu a aussi. Là. Donc, moi, je suis assez déchiré entre les deux, entre ce qu'il faudrait qu'il y ait des obligations légales par rapport à ça. Mais bref, le téléphone encrypté est quand même un enjeu clé dans cette histoire-là.
Oui, et ce téléphone-là est toujours entre les mains des autorités. Il est toujours pas retourné au suspect.
Non.
Et le téléphone est là, en fait. Il est dans une pièce aux exhibits. On sait que tout le mystère réside un peu là-dedans, mais il est impossible de l'ouvrir et le principal suspect ne collabore pas, donc il veut pas donner son mot de passe. Vous allez voir, là, ça va être une histoire très, très intéressante de ce côté-là. Plusieurs aussi textos, des histoires de textos étranges qui ont été envoyés, des rumeurs. J'espère que vous allez nous suivre jusqu'à la fin. Pour passer au travers de tout ça, Seb, qu'est-ce qu'on boit?
Oh oui, on boit aujourd'hui, mon cher Émile, la saison Victorin de la Souche qui est située à Stoneham, au Québec, près de la région de Québec même. C'est la saison au jus de pomme bio à 6% d'alcool avec un IBU de 15, donc pas énormément d'amertume. Évidemment, ça goûte la pomme délicieuse, là. Il y a une touche de citron et de poivre. C'est vraiment une bonne bière d'automne et ça se rapproche du cidre dans le goût.
Oui.
Si vous aimez, le cidre de pomme, c'est une bonne bière pour vous, là.
Oui, vraiment, là, excellente bière. Cette semaine, cette bière-là nous est offerte par Céline, qui vient de Nice, en France, qui nous a offert cette bière via la tournée de bière au distorsionpodcast.com. Donc, si vous voulez faire comme Céline, encourager le show et nous faire même découvrir une bière de votre région, si vous voulez, vous pouvez le faire via cet onglet-là. Donc, on te remercie, Céline, et on boit à ta santé.
On a aussi un shout-out pour un review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de H. Royer du Canada. Il nous dit un des meilleurs podcasts en français. J'utilise même pas Apple Podcasts, mais j'ai downloadé l'application juste pour pouvoir laisser un 5 étoiles.
Oui, ça, c'est du love.
Oui, ça, on t'aime. Merci beaucoup. Vraiment un des podcasts franco les plus intéressants. Quand je vous ai découvert, j'ai tout écouté les épisodes en 2 semaines.
Bon, c'est quand même assez rapide, 2 semaines,
oui,
étant donné
même.
Qu'on est rendu à quoi, 59 épisodes maintenant.
Oui, exactement. Donc, ça fait beaucoup de contenu. Hein?
Oh oui. On vous remercie aussi de nous avoir acheté de la merch pendant la promo là, de la saison 5. Vous pouvez encore le faire pendant un temps limité. Vous avez 25% de rabais sur notre boutique,
oui.
Là, au boutique.distorsionpodcast.com. Et en entrant le code saison 5, là, sans espace, vous avez ce rabais-là automatiquement. On vous remercie aussi à ceux qui ont acheté notre livre aux éditions de l'Homme. Vous pouvez le faire encore en mode digital, en mode papier aussi dans la plupart des librairies, autant en Europe qu'au Québec. On vous remercie toujours de cela. On sera au Salon du Livre de Montréal,
oui.
Aussi, Seb. Connais-tu les dates par cœur?
Ça sera du mercredi 20 novembre au lundi 24 novembre. Et nous, Émile, on va être là le vendredi, samedi et dimanche.
Ben oui.
Donc, le vendredi, le 22, on va être là de 14h30 à 16h. Samedi, le 23 novembre, on va être là 2 fois. On va être là de 14h30 à 16h et en soirée de 19h à 20h30.
Oh, on fait un night shift.
Oui, quand même. Hein? Et finalement, le dimanche, pour vous, chers distordus, on va être là de 11h30 à 13h. Ça va nous faire plaisir de vous voir si vous voulez faire dédicacer votre livre, même si vous le possédez déjà. Amenez-le avec vous. Nous, ça va nous faire plaisir de le signer. Sinon, ben, il va en avoir sur place aussi.
Sinon, vous pouvez venir juste chiller.
Oui, aussi, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre.
Sur ces belles paroles, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans le mystère de la disparition de Caitlin Akins?
Oui, monsieur.
C'est parti. On se retrouve le lundi 7 décembre 2015. Une valise de couleur bleue qui semble abandonnée est retrouvée dans un fossé près de l'autoroute River Road dans le comté de Spotsylvania, près des limites de la ville de Fredericksburg en Virginie, aux États-Unis. C'est un patrouilleur qui remarque la valise. Il s'approche pour l'inspecter. La valise, qui a une roue manquante et plusieurs égratignures, comme si elle avait été jetée là, contient un chargeur de téléphone, des lunettes, un portefeuille contenant une carte d'identité, de l'argent liquide, des cartes de crédit et un billet d'avion. Étrangement, la valise ne contient aucun vêtement, ce qui est assez louche là, pour quelqu'un qui voyage. La carte d'identité et le billet d'avion appartiennent à une certaine Caitlin Michelle Akins, 19 ans, une étudiante de l'Arizona. En communiquant avec la centrale pour les informer de leur découverte, les autorités font le constat que Caitlin Michelle Akins vient d'être déclarée portée disparue presque à l'instant même par sa mère. Elle a été vue pour la dernière fois par son ancien beau-père, James Branton, qui allait la reconduire au centre commercial de Springfield pour qu'elle puisse prendre le métro par la suite pour se rendre directement à l'aéroport Reagan de Washington, D.C., car Caitlin avait un vol en direction de Las Vegas à 17h40 pour rentrer chez elle. Elle habite dans la ville de Lake Havasu City, en Arizona, comme on disait un peu plus tôt, pour aller rejoindre, entre autres, sa fiancée, Amber. Mis à part quelques textos étranges envoyés durant l'après-midi, on va y revenir, plus aucune nouvelle de Caitlin depuis. La famille et les autorités sont bafouées par la situation. Le comté de Spotsylvania est très paisible et tranquille, rarement des crimes sont commis et une telle disparition est encore plus rare.
Oui, c'est son genre 140 000, même pas là,
dans tout le comté.
Oui, de population. Là.
Étant donné que Caitlin a 19 ans, ce n'est pas non plus une urgence là, de la retrouver de la part des enquêteurs, puisqu'en Virginie, l'âge de la majorité est de 18 ans, là, comme au Canada. Une adulte est donc libre de disparaître, là. C'est pas un crime. Donc à ce moment-là, les autorités sont toujours un peu hésitants avant d'envoyer la sauce, là, si on veut.
Oui, c'est toujours embêtant, hein. Je me mets toujours à la place de la personne qui va voir les autorités pour déclarer une personne disparue qui est adulte. Puis souvent, justement, elle est toujours un peu challengée versus si une même personne va voir pour déclarer un enfant disparu. Hein. Comme tu dis, on dirait que vu que c'est un adulte, on sent moins l'urgence.
Oui, souvent, ils vont attendre plusieurs jours avant de vraiment faire des recherches un peu poussées parce que la plupart des gens qui disparaissent reviennent. Faut pas oublier, hein. C'est 88% des gens, notamment au Canada. Vous vous rappelez, moi et Seb, on a fait une prestation au Festival Transistor sur comment disparaître à l'ère numérique. On espère la refaire un jour, d'ailleurs. Mmh. C'était un truc assez cool. Puis la plupart des gens reviennent. Donc souvent, les policiers vont attendre un certain temps avant de vraiment de déployer les moyens pour retrouver un adulte disparu.
Oui, exact. Mais quand il vient arriver des circonstances un peu particulières comme là, qui ont retrouvé une valise, pas de vêtements, ben là, c'est certain que ça accélère un peu le processus. La disparition est un petit peu plus prise en considération, étant donné qu'il y a une forme de preuve à l'extérieur qu'il se passe quelque chose de louche.
Oui, il y a même un billet d'avion, mais par contre, on sait que la personne n'a pas pris son vol. Donc, une situation très mystérieuse. Qu'est-il arrivé à Caitlin une fois que James l'a déposée au centre d'achat? A-t-elle été enlevée ou est-ce encore une disparition volontaire et planifiée? Mais tout d'abord, qui est Caitlin Akins?
Caitlin Michelle Akins est née le 2 septembre 1996. Elle a grandi dans le comté de Caroline en Virginie avec sa sœur Gabrielle Akins, aujourd'hui qui s'appelle Madison parce qu'elle est mariée. Son père biologique est disparu du décor lorsqu'elle avait 3 ans. Sa mère s'est mariée avec James Branton lorsqu'elle avait 7 ans.
Celui qui devait aller la reconduire à l'aéroport.
Exact. Caitlin est décrite par ses amis et sa famille comme une personne unique, excentrique, parfois imprévisible et émotive. La jeune fille, un look un peu punk, se teignait régulièrement les cheveux de couleurs différentes et changeait souvent de coupe de cheveux. Elle portait aussi plusieurs tatouages et piercings là, dans le nez, dans les oreilles, etc. Elle menait aussi une vie sociale très active et c'était la première fois qu'elle était autant sérieuse en couple avec quelqu'un, là, avec Amber, dont elle est fiancée. Avant d'avoir fréquenté des filles, Caitlin, elle a eu plusieurs copains aussi, donc elle semble assez ouverte de ce côté-là. Elle est aussi décrite comme quelqu'un de très intelligente, elle est aussi très geek. Elle a même terminé son secondaire plus rapidement de son propre gré. À 15 ans, elle a suivi des cours supplémentaires pour terminer son secondaire le plus vite possible. Elle a eu même son diplôme à l'âge de 16 ans, là, presque 2 ans d'avance.
Oui, généralement, c'est vers 17, même 18 ans des fois. Là.
Exact, là, selon l'âge que tu commences. Là. Dès qu'elle a obtenu son diplôme, elle a commencé à travailler et à débuter sa vie d'adulte, car la vie à la maison avec son beau-père n'était pas toujours facile.
Son beau-père, à l'époque, c'était le fameux James Branton.
Toujours James. Selon certains, c'était un homme colérique et plutôt autoritaire. Et elle n'avait aucune confiance en lui. Elle se sentait toujours très nerveuse quand elle était autour de lui. Il semblerait par contre ne jamais l'avoir battue. C'était plus au niveau verbal, là, la discipline et l'autorité.
La mère aussi de Caitlin décrivait James comme étant... il pouvait être empreint de colère à certains moments donnés, mais c'était pas le dénominateur commun de sa personnalité. Là. Okay. C'était quand même quelqu'un de plutôt gentil, je dirais. Apparemment quelqu'un de très organisé, même de très intelligent, mais qui avait effectivement parfois des petits moments plus colériques.
N'oublions pas que James devait aller la reconduire à l'aéroport et que la mère de Caitlin était toujours en bon terme avec lui, comme on vous disait. Malgré tout, James était serviable et n'hésitait pas à apporter son aide à Caitlin et à sa mère, même plusieurs années après que le couple se soit séparé.
Apparemment, il pouvait lui donner de l'argent ou payer l'épicerie, des choses comme ça. Donc, c'était quand même quelqu'un de serviable.
Moi, ouais, j'imagine qu'elle considérait un petit peu comme sa fille. Là. Généralement, quand tu vieillis longtemps ou que tu habites avec quelqu'un longtemps, il a dû prendre son rôle de beau-père au sérieux. Puis en particulier, quand l'enfant n'a pas de père biologique, bien, généralement, le beau-père prend plus de place.
Mm-hmm.
Même après l'école secondaire, Caitlin a toujours gardé de bons contacts avec ses amis. Elle était bien entourée. Et malgré qu'elle a terminé le secondaire depuis quelques années, elle les revoit souvent lorsqu'elle est de passage et passe des soirées à faire la fête avec eux. Le groupe d'amis de Caitlin n'a rien de bien différent des autres groupes de jeunes adultes de son âge. Oui, il leur arrive de faire la fête, de découvrir des plaisirs de la vie, que ce soit l'alcool, la drogue et même le sexe, mais toujours sans tomber dans l'excès et l'abus. On est tous un peu passés par là, hein, mon cher Émile.
Oui, effectivement. Parlons un peu maintenant de la relation entre Caitlin et Amber. Comment ça a commencé?
Oui.
L'amitié, tout d'abord, entre Amber et Caitlin date de leur tendre enfance. Malheureusement pour elles, lorsqu'elles eurent autour de 11 ans, la famille de Amber est déménagée de la Virginie vers l'Arizona, des milliers de kilomètres plus loin. Malgré la distance, les deux filles sont restées très proches et ont discuté chaque jour via les réseaux sociaux. Donc, ils ont gardé une amitié très, très soudée. Plus le temps avançait, plus leur amitié s'est transformée en romance à distance,
oui.
Donc un classique amour longue distance. Mmh. En décembre 2014, peu de temps après avoir eu 18 ans, Caitlin a décidé de s'installer en Arizona pour aller rejoindre Amber, puis éventuellement de poursuivre ses études.
Oui.
Peu de temps après, les deux se sont fiancés, donc quand même assez tôt, à 18 ans. Encore une fois, malgré la distance, Caitlin est restée en contact étroite avec sa famille, en particulier avec sa mère Lisa et sa sœur Gabby. Elle discute avec elle 2-3 fois par jour. Caitlin est décrite quand même par ses amis comme quelqu'un de très communicatif.
Oui.
Apparemment qu'elle est toujours en train d'écrire à ses amis, à ses parents, donc elle donne toujours des nouvelles et elle donne beaucoup de détails. Elle écrit des longs textos.
Oui, elle est loquace.
Mais revenons aux quelques jours précédant sa disparition pour tenter de faire un peu plus la lumière là-dessus. On sait que souvent, les derniers jours avant une disparition sont très importants. Caitlin était en visite dans sa famille depuis le début du mois de décembre pour visiter sa famille, dont sa sœur Gabby, qui venait de donner naissance à un petit bébé un mois auparavant. Donc, son filleul venait de naître du nom de Landon.
Oui.
Caitlin était très excitée à l'idée de rencontrer son nouveau petit filleul. Elle en a profité du même coup pour aller voir quelques amis du secondaire au passage. Elle prévoyait rester quelques jours.
Oui.
Elle avait aussi besoin de récupérer son diplôme d'études secondaires qui était chez sa mère, car il était nécessaire pour compléter son inscription dans un programme de formation professionnelle en cosmétologie. Les cours commencent le lundi suivant, soit le 7 décembre. Donc, c'est pour ça que son voyage est très court.
Oui.
Caitlin aimait l'esthétique en général, mais était très douée pour les sciences. Donc, ce programme de la cosmétologie qui allie chimie et esthétique était parfait pour elle. Nous sommes toujours dans le comté de Spotsylvania en Virginie le samedi matin, le 5 décembre. C'est la journée du vol de retour de Caitlin. Elle se retrouve alors chez son ancien beau-père, James Brenton. James est la seule figure paternelle que Caitlin a connue dans sa vie, car elle a très peu connu son père biologique. Sa mère, Lisa Sullivan, est venue la reconduire chez lui car elle ne pouvait aller la reconduire elle-même à l'aéroport, car à ce moment-là, elle travaillait à cette heure-là.
Ouais.
Donc, elle a demandé à James, son ancien mari, d'aller la reconduire. Il accepte, ça semble être OK pour tout le monde, mm-hmm. Caitlin aussi est d'accord, il n'y a pas de problème, car lui, il commence à travailler seulement à l'heure à 15 heures, dans le fond, à 3 heures PM, et lui, il travaille sur une base navale. Et il doit aller porter Caitlin à l'aéroport, mais l'aéroport est quand même à près de 130 kilomètres d'où James se trouve.
Ouais.
Donc, c'est quand même une longue route.
Oui, ça doit prendre au moins minimum, c'est plus qu'une heure techniquement avec la limite de vitesse, donc presque une heure et demie.
Oui, sans compter le trafic. Donc, c'est
exact,
pour ça que James avait quand même une contrainte de temps vu qu'il travaillait. Okay. Donc, il devait s'assurer que Caitlin soit là à la bonne heure. Son vol est en fin PM vers 17h40. Donc, ouais. Elle doit être là quand même pas trop tard. Donc, c'est quand même une journée où la logistique est importante puis où les laps de temps sont très courts. Les discussions sont enflammées, là, mais du bon côté, et joyeuses ce matin-là chez James, car Caitlin a de beaux projets pour le futur. Son couple va bien, elle est fiancée avec Amber, elle file le bonheur, elle a enfin un plan là, de carrière qui lui plaît, et elle est très motivée de retourner sur les bancs d'école dès le lundi suivant. La discussion est très positive, elle tourne là, autour de ses plans de carrière, de ses études, de sa vie en général, et comme quoi là, ben, elle est sur la bonne voie. Tout semble bien aller dans le meilleur des mondes. Mais ça, on dirait que c'est assez atypique de ce genre de contexte-là. Tu sais, quand on regarde la plupart des grands cas de disparition, il y a souvent des situations de stress ou des situations conflictuelles qui précèdent la disparition.
Ben, du moins, qui permet de l'expliquer, on dirait, un peu plus. Mm-hmm. Puis dans ce cas-ci, ben, c'est ça, tout semble bien aller.
Oui, qu'on pense, moi je pensais par exemple à Emma Philippoff ou même Maura Murray. Emma Philippoff, elle, manifestement, elle était dans une situation de stress vraiment intense. Ouais. Maura Murray semblait être justement semblait avoir des problèmes de conscience un peu, à se chercher un peu. Puis même Marilyn Bergeron était dans une période assez troublée là, quand elle est disparue. Donc, dans le cas de Caitlin ici, c'est assez particulier parce que justement, on a une fille qui est super intelligente, qui semble pas avoir de conflit avec personne, du moins pas en apparence. Et puis, malgré tout, eh bien, c'est sur elle que le destin s'acharne.
Oui.
Nous verrons aussi un peu plus tard que peut-être que tout n'était pas si rose au cours des derniers jours dans la vie de Caitlin. Restez avec nous.
Il est 9h20. La mère de Caitlin, Lisa, commence à travailler à 10h et doit quitter la maison. Elle salue chaleureusement sa fille et quitte la maison de James pour se rendre au travail. Caitlin reste seule avec son ex-beau-père pour le reste de l'avant-midi. Les deux discutent apparemment sans problème le reste de l'avant-midi.
Donc, elle devait quand même rester quelques heures, là, un bon 2-3 heures là, chez James.
Oui, avant de quitter. À 11h56, Caitlin envoie un texto à Amber, sa fiancée, et lui dit « Quelque chose est arrivé. Je ne reviendrai pas aujourd'hui. Je te préviendrai quand j'aurai un nouveau vol. » Et elle ajoute dans un second texto « Je ne pourrai pas envoyer de texto pendant un bon moment. »
Déjà, c'est louche.
À 13h52, donc 2 heures plus tard, James envoie un texto à Lisa, la mère de Caitlin, lui disant qu'il a déposé Caitlin comme prévu. Lisa le remercie et conclut la discussion en lui demandant comment avait été le trafic. Il a répondu que c'était pas trop mal. Il précise qu'il a déposé à la station de métro de Springfield et qu'elle allait ensuite prendre le métro jusqu'à l'aéroport, plus qu'il y a un arrêt justement de métro à l'aéroport de Reagan. Lisa trouve ça étrange qu'elle ait décidé de prendre le métro parce qu'elle l'a pas pris depuis l'âge de 6 ou 7 ans ou même le train. Selon elle, elle connaît pas bien le mode de fonctionnement puis c'est pas quelqu'un qui est très très à l'aise dans les moyens de transport. Donc pour elle, ça faisait un peu étrange qu'elle ait choisi de faire ça et de prendre ça de manière autonome. Donc déjà là, il y a un autre drapeau qui se lève.
Oui, en plus de ça, cette station de métro-là était située dans un centre commercial, là, un petit shopping mall dans la ville de Springfield. Là. C'est pas la ville des Simpsons. Là. Springfield, il y en a un dans tous les États américains. Mais même ce petit centre d'achat-là, ce petit centre commercial, apparemment que Caitlin n'y était jamais allée, selon sa mère. Donc, c'est encore plus étrange. Pourquoi elle aurait voulu aller dans un endroit où elle n'est jamais allée pour prendre un métro vers l'aéroport? Puis apparemment que même à partir du métro de Springfield, elle en avait facilement pour une autre heure là, de déplacement, parce que c'est un mélange de métro, de bus et tout ça. Donc, 45 minutes, une heure. Donc, c'était pas tant que ça avantageux pour elle. Ça faisait une drôle de journée de logistique, là.
Oui, c'est ça. C'est l'excuse, je pense, c'était qu'elle voulait un peu tuer le temps, étant donné qu'il fallait que James parte plus tôt à cause de son travail, puis que étant donné que son avion est à 17h40, mais c'est vrai que quand tu calcules tous les temps de déplacement, on dirait qu'il n'y a pas tant de gain que ça. Surtout que James y avait promis de la déposer directement à l'aéroport et non au centre commercial.
Mais c'est vrai que, bon, la théorie de tuer le temps est peut-être valable aussi. Là.
À 14h, Lisa, la mère de Caitlin, reçoit un texto de Caitlin lui disant qu'elle est bien arrivée à l'aéroport. Elle envoie ensuite un second message indiquant que sa batterie va bientôt mourir et qu'elle ne pourra plus texter pour un bout de temps. Lisa trouve ça très étrange car elle n'envoie jamais pratiquement deux textos de suite. Elle cumule souvent l'information dans un même texto, mais elle n'en fait pas de cas, elle lui répond « Ben, au moins texte-moi quand tu seras assise dans l'avion ». Peu de temps après, Amber, la fiancée de Caitlin, envoie elle aussi un texto à Lisa, sa mère, pour lui dire que Caitlin l'a avisé qu'elle n'allait pas rentrer aujourd'hui. Là, Lisa est devenue un peu confuse parce que les textos précédents de Caitlin mentionnaient le contraire. qu'elle était dans l'avion. Puis là, sa blonde Amber, lui dit que finalement, elle ne rentrera pas. Fait qu'il y a une contradiction, là, ça doit... Puis elle est au travail en plus, puis elle ne peut pas quitter le travail, elle termine à 18h. Fait qu'elle elle se sentait un peu prise dans une genre d'impasse, puis elle était très inquiète à ce moment-là.
Puis apparemment que ce matin-là même, quand sa mère, Lisa, a discuté avec sa fille, Caitlin, tout allait bien, tout était normal, donc il semblait pas du tout avoir de stress ou de situation paniquante. Tout semblait bien aller. Donc pour elle, comme tu dis, c'est très étrange tout ça.
5 heures plus tard, ou presque 2 heures, disons, après le départ du vol prévu, donc à 19h15, Lisa reçoit de nouveaux textos de la part de Caitlin, lui disant qu'elle reste chez une amie finalement, car elle a besoin de solitude.
Rappelons-nous qu'elle devait recommencer l'école le lundi suivant. Là.
Oui. Sa mère l'implore alors de l'appeler car elle est très inquiète. Lisa tenta de l'appeler, mais tomba directement sur sa boîte vocale comme si le téléphone avait été fermé. Et ce sont les derniers messages qu'elle a reçus de sa fille. Amber a aussi reçu tard en soirée un message via Facebook très étrange de la part de Caitlin, lui disant qu'elle ne pouvait pas rentrer car elle l'avait trompée avec un couple hétérosexuel, mais que l'alcool était en cause et qu'elle éprouvait beaucoup, beaucoup de remords. C'était très étrange pour Amber car leur couple allait bien selon elle. Par contre, la veille de la disparition, le 4 décembre, Caitlin a rendu visite à des amis, un couple hétérosexuel qui se connaissait au secondaire. Ils ont passé la soirée ensemble à jouer aux cartes et à boire de l'alcool et Caitlin a fini par passer la nuit là car elle n'avait pas de chauffeur désigné. Le lendemain matin, ils l'ont ramené chez sa mère sans problème. Et selon elle, Caitlin était de bonne humeur et semblait parfaitement bien aller. Là. Donc, il semble pas y avoir eu de conflit même la veille avec ses amis ou quoi que ce soit. Là. Même si elle a dormi là. Mais c'est bizarre le message Facebook comme ça, là, tu sais, qui en fin de soirée. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a averti qu'elle voulait plus se rendre, plus y aller parce qu'elle avait trop de remords là. Le premier texto qu'elle a envoyé justement. À Amber, Caitlin, qui lui disait qu'elle pouvait plus rentrer. Est-ce que ça a un lien avec ça?
Ouais, déjà là, ça sème la confusion. Là. Vous allez voir, on va y revenir à cette fameuse soirée avec ce couple mystérieux parce qu'il semblerait que tout n'est pas été dit.
Non, exact. Donc, depuis ces derniers messages, donc le dernier message en soirée de Facebook et le dernier texto à la mère vers 19h et quelques, ils ont plus jamais reçu de nouvelles de Caitlin. Jamais, jamais, jamais.
Et c'est alors que Caitlin Akins est finalement portée disparue là, par sa famille et ses proches. Rapidement, le soir même du 5 décembre, Lisa et Amber publient sur les réseaux sociaux un avis de recherche à propos de Caitlin. Vous savez, hein, on l'a dit un peu plus tôt, parfois les disparitions d'adultes, c'est pas des top priorités.
Exact.
Donc à ce moment-là, souvent, de plus en plus à l'ère numérique, les familles ont ce bon réflexe-là ouais. De tout de suite créer même... ils ont pas créé une page tout de suite Facebook à ce moment-là. Mais ils ont utilisé tout de suite les réseaux sociaux pour tenter d'envoyer un message à la population. Puis vous allez voir, sa mère, Lisa, va être très proactive dans les démarches pour tenter de retrouver sa fille.
Puis ça va rapidement, hein? vous le voyez, il me semble que j'en vois presque chaque jour des avis de disparition que souvent des parents vont mettre sur les réseaux sociaux et les gens ont tendance à repartager même s'ils connaissent pas parce qu'on le sait, plus de gens voient la publication, plus il y a peut-être de chances de retrouver la personne disparue. Donc.
Exactement. Et là, tout son entourage tente de l'appeler sans succès, là, Caitlin. À chaque fois, c'est comme si son téléphone était fermé, il tombe oui. Sur sa boîte vocale, et ben là, assez rapidement, même sa boîte vocale devient pleine, il n'y a plus rien à faire. Le 7 décembre, là, c'est la journée où elle devait recommencer ses cours. N'ayant toujours pas de nouvelles, Lisa se rend aux autorités pour signaler la disparition de Caitlin. Lorsqu'elle était en train de remplir le formulaire, un appel provenant d'un patrouilleur indiquait qu'il venait de retrouver une valise sur le bord de la route appartenant à Caitlin Akins. Et là, c'est très inquiétant. Ouais. Sa mère panique tout de suite. Cette valise-là contient un chargeur de téléphone, bon, ce qui explique peut-être que Caitlin n'avait plus de batterie sur son téléphone, mais bon, il y a aussi des lunettes, un portefeuille contenant une carte de crédit, donc il y a même de l'argent liquide et tout ça n'a pas été volé, là, c'est resté dans la valise. Il y a aussi d'autres cartes de crédit et le billet d'avion de Caitlin.
Oui.
Et étrangement, la valise ne contient aucun vêtement et le plus intriguant selon moi, le Seb, là, elle ne contient pas le diplôme d'école secondaire que Caitlin venait chercher en Virginie. Mais pourquoi, tu sais?
Ouais, ça, c'est vraiment étrange, là. C'est un peu une des pièces du mystère aussi, je trouve. Il est pas... La valise était fermée, je pense pas qu'il est parti au vent, par exemple, lorsque la valise a été lancée. C'est bizarre, là. D'après moi, la personne qui est responsable de ça l'a gardé volontairement, là.
Il faut pas oublier qu'il y a aussi une petite roue de la valise qui est plus là, donc qui a été brisée. Et ce qui, c'est assez particulier parce que depuis le début, tu nous dis, Seb, comme si la valise avait été lancée là, mais c'est vrai que ça fait du sens parce qu'elle est amochée un peu, elle a perdu une roue, mais en même temps, pour lancer une valise comme ça, c'est quand même une grosse valise, là, tu sais, c'est une grosse valise carrée, bleu pétant. C'est pas évident à lancer d'une voiture là, par une fenêtre ou une porte, je sais pas trop, là. Peut-être qu'il faut être deux personnes pour le faire. En tout cas, c'est étrange un peu. Mais oui, manifestement, c'est possible, étant donné qu'elle est dans un ravin, on a tendance à tout de suite dire qu'elle a été lancée de par une voiture.
Oui, oui.
Mais c'est bizarre comme contenu de valise, parce qu'il me semble que de l'argent liquide, des cartes de crédit, tu gardes pas ça dans ta valise. Il me semble, une fille va garder ça dans son sac à main ou même dans ses poches ou dans un sac de voyage, quelque chose comme ça, là, mais pas dans une valise comme ça, là. Tu veux garder ça près de toi, ces items-là.
Ouais, sauf si elle avait mis ça avant de se rendre à l'aéroport, si c'était le seul sac qu'elle avait ou le seul, disons, bagage qu'elle possédait pour son retour, je me suis dit qu'elle avait peut-être mis ça avant de quitter, puis à l'aéroport, elle allait ressortir ça de là. Mais c'est vrai que c'est bizarre, tu sais. Puis même ses lunettes, puis il n'y a pas de linge.
Oui, les vêtements, la chose principale qui, selon moi, devrait être dans cette valise-là, sont manquants.
Oui, exact. Puis pas de téléphone, tu sais, ben, il n'y en a pas de téléphone, il n'y en a pas retrouvé dans la valise. Donc, est-ce qu'il est toujours avec elle? C'est mystérieux. Puis tu sais, du moins, le fait qu'il y a encore l'argent, les pièces d'identité, ça démontre que le but, du moins, n'était pas le vol. Mm-hmm. Parce qu'il y avait de l'argent et des cartes, là.
Non, c'est ça.
Généralement, c'est la première chose qui part. Puis là, non, il y a... Puis c'est ça, j'ai l'impression que quelqu'un est arrêté sur le bord de la route, puis il est sorti, puis il a lancé la valise, là. J'imagine que
c'est... Elle s'est brisée sous le choc.
Oui, c'est ça, que la roue en tombant, puis les égratignures. Mais c'est tout de même étrange. Mais au moins, elle n'a pas ouverte, tu sais. Elle restait intacte quand même. Elle n'a pas été... Parce que techniquement, on ne sait pas depuis combien de temps qu'elle était là. Est-ce que ça faisait 2 jours?
Non, exact.
12 heures.
Ben c'est que le fait qu'il y ait de l'argent liquide dedans, moi, ça me convainc qu'elle n'a pas été ouverte. Parce que pour être franc, je mets sur le coin de ma rue ici, là, dans Hochelaga, je mets une valise, puis en 5 minutes, elle n'est plus là, où elle a été complètement ouverte. Ouais. Les gens ont regardé dedans. Elle peut avoir l'air de la valise de Caitlin Akins, là, qui a été lancée dans un ravin, là. Donc... Mais dans son cas à elle, en fait, si c'était le cas, s'il y avait des gens, des passants ou des sans-abri qui auraient fouillé dedans, ils auraient pris les cartes de crédit puis l'argent, mais pas les vêtements.
Non.
Donc selon moi, la valise n'a pas été ouverte préalablement, là. Je veux dire après le coup.
Non.
Elle a été lancée telle quelle avec ce qu'il y avait dedans et ce qu'il n'y avait pas dedans. Là.
Ça devait être récent, hein, parce qu'une une valise bleue pétante sur le bord d'autoroute, de ce que j'ai compris, le patrouilleur l'a quand même remarqué rapidement. Donc, elle devait se voir de la route, puis il y a toujours de la police qui circule. Donc,
elle a été retrouvée rapidement, 2 jours après.
Oui, 2 jours, mais tu sais, elle aurait pu... ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il l'a envoyé peut-être la veille, le soir, ou ben je dis la personne, là, du moins, là, où c'était depuis le 5 décembre. Il y a ce moment-là aussi que je trouve mystérieux, quand elle est apparue dans le fossé.
Et là, la dernière personne qui a été en contact avec Caitlin, c'est James Brenton, en fait, son beau-père.
Oui.
Donc, évidemment, il devient un peu dans la mire des autorités. Ceux-ci vont se rendre à son domicile pour tenter de trouver des preuves. Donc, ils vont saisir des armes à feu, des appareils électroniques et son ADN. Mais ils n'ont rien trouvé, là, aucune piste là, significative pour l'arrêter. Donc, il est toujours en liberté, mais il semble en apparence avoir rien à se reprocher.
Oui.
Il n'y a rien dans la maison de James qui est lié à Caitlin. Ce dernier est quand même assez collaboratif là, au début de l'enquête. Il n'hésite pas à rappeler les enquêteurs quand ils ont besoin, puis à céder à leurs demandes. Donc, ils vont venir chez lui, ils vont lui poser des questions, il n'y aura jamais de problème. Ils vont saisir ce qu'ils veulent. Par exemple, même des draps, ils vont prendre des objets là, quelconques chez lui pour tenter de retrouver des preuves, mais ils vont rien trouver. We'll be right back. Un autre élément essentiel là, dans cette histoire étrange-là, c'est les données des tours cellulaires. Puis là, je te laisse nous en parler un peu, Seb, parce qu'il y a pas mal de choses qui clochent là-dedans.
Oui, c'est assez étrange, hein, puis on le sait, dans la plupart des cas de disparition, les tours de cellulaires et où les cellulaires pingent, c'est toujours des éléments importants que les enquêteurs peuvent utiliser pour repérer la position géographique de quelqu'un, du moins lorsqu'elle utilisait son téléphone.
Oui.
Selon l'inspectrice Williams, qui était en charge de l'enquête de Caitlin, lorsque Caitlin a texté sa mère à 14h à l'aéroport, le rappelez-vous, pour lui dire qu'elle était bien arrivée, en fait, son téléphone, lui, pignait à Fredericksburg et non de l'aéroport. Fredericksburg, c'est la ville où habite James et très près de où est-ce que la valise a été retrouvée aussi. De ce qu'on peut interpréter des tours de cellulaire, le téléphone, donc sûrement Caitlin s'est jamais rendu plus loin que... En fait, s'est jamais rendu au nord de la région, donc elle s'est jamais dirigée vers l'aéroport.
Parce que quand on regarde tout ça sur Google Maps, on se rend compte que t'as la ville de Partlow, qui semble être vraiment la petite ville où James Brenton habite, dans la même région, dans le comté de Spotsylvania. Un peu plus au nord, on retrouve Fredericksburg, bon, qui est là où la valise a été retrouvée. Puis c'est quand même plusieurs kilomètres au nord là, qu'on retrouve Washington, D.C.
Oui.
Donc tout ça, c'est une longue route vers un peu le nord-est et vraiment, le téléphone, selon les tours cellulaires, c'est pas rendu très loin. Là.
Non, c'est ça qui est quand même assez étrange. Puis un téléphone, ça ne ment pas. Une tour de cellulaire. Par contre, le texto envoyé par James lorsqu'il est au centre commercial de Springfield pour aviser sa mère qu'elle était bien déposée, lui, il a été localisé au bon endroit, par contre.
OK, donc c'est possible que celui-là ne soit pas un mensonge, du moins qu'il soit cohérent avec la timeline.
Oui, exact. La famille et les amis ont aussi trouvé les textos et les messages qui ont été envoyés par Caitlin plutôt suspects, un peu comme on vous le disait. Généralement, ils étaient très courts, écrits souvent sur deux lignes. Les proches de Caitlin expliquent que généralement, elle fait jamais de double texto. Elle va généralement écrire des longs textos qui vont être ponctués. Donc, ils sont d'avis que les textos envoyés semblent pas provenir de Caitlin.
Oui, c'est particulier ça, puis c'est fascinant aussi de voir que même notre style de texto contribue à créer une partie de notre identité en ligne. Souvent, les gens, il y a eu plusieurs erreurs de la part de criminels commis comme ça, en tentant de texter sur le téléphone d'un autre, mais en ayant un style complètement différent. Donc, c'est pas le premier cas de disparition où on retrouve un peu cette analyse-là. Il y a certaines personnes qui emploient beaucoup d'emojis, il y a certaines personnes qui n'utilisent pas du tout de ponctuation, d'autres qui vont vraiment écrire littéralement. Là.
Ouais.
Tout le monde a un peu son style, puis ça contribue vraiment à t'identifier à l'ère numérique. Là. Mais cependant, je pense qu'il faut pas tout miser là-dessus, parce que je suis sûr que toi aussi, Seb, t'as déjà vécu des situations de stress ou des situations d'empressement qui ont fait en sorte que pour cette raison-là, ben ton texto a peut-être été envoyé dans un style un peu différent.
Oui, si tu fais ça rapidement, justement, si t'es stressé, pressé par le temps, ben tu vas négliger tous les petits détails qui font en sorte que tu vas donner de la personnalité à ton texte. Puis justement, ça pourrait peut-être expliquer ça aussi.
Oui, ou même quand t'es déprimé ou quand t'as pas envie de parler à personne, ben les textos risquent d'être un peu plus courts. Mais somme toute, ça semble assez différent du style de Caitlin. Les gens semblent dire, ses proches semblent dire que si même elle avait vécu une situation stressante ou angoissante, elle leur aurait expliqué, vu qu'elle est très vocale, puis elle exprime énormément ses états d'âme sans problème.
Oui, puis même, je comprends pas pourquoi elle a jamais appelé non plus. T'sais, si elle était vraiment dans une situation où ce que ça va pas, le téléphone aussi, ça sert pas juste à texter. Ça, il y a comme pas eu, à part sa mère qui a tenté de l'appeler, elle semble pas avoir tenté d'appeler personne. Fait que ça aussi, je trouve ça étrange d'une certaine manière, compte tenu de la situation et qui semblait quand même avoir une sorte d'urgence ou de quelque chose qui va pas, là.
T'sais. Oui.
Les autorités ont vérifié aussi les bandes vidéo en du centre commercial de Springfield parce que, théoriquement, elle a été déposée là par James. Ils ont aussi vérifié ceux de la station de métro et de l'aéroport. Caitlin n'a jamais été aperçue nulle part, sur aucune bande vidéo. Ceci dit, James non plus, le beau-père, n'a jamais été aperçu lui non plus. Donc même si le téléphone a pigné du centre commercial...
Ou de cette région-là.
Oui,
là,
ou du
tour
secteur,
qui est
oui,
proche. Là.
Oui, exact. Hein, on le sait, les tours de cellulaire, c'est bien que tu précises ça, parce que les tours de cellulaire, ça a quand même sa limite. Ça, c'est un rayon. Mm-hmm. C'est pas pinpoint à un endroit extrêmement précis. Là. Donc, lui aussi, c'est assez louche. qui a pas été aperçu au centre commercial non plus. Là. Donc, ça va de plus en plus vers le mensonge. On dirait que la version de James est pas cohérente avec ce que les cellulaires disent et les caméras de sécurité. Ils ont aussi, évidemment, fouillé tous les abords de la route où la valise a été retrouvée, mais en vain. Ils ont aussi fait des recherches par voie aérienne, sans succès non plus. Là. Puis, tu sais, je regardais sur Google Maps, il y a beaucoup de boisés aussi. Là.
Ouais.
C'est difficile de...
De couvrir du terrain.
Exact, là, tu sais, puis s'assurer, parce qu'il n'y a toujours pas de corps de retrouver. Hein, ben, du moins, on ne sait pas si elle est morte, mais c'est un terrain assez vague aussi. Là. Donc, je trouve que c'est un bon défi pour les enquêteurs.
Ils vont aussi faire des recherches sur les petites rivières, les courants d'eau qui sont dans ce coin-là, pour voir s'ils ne trouvent pas des indices ou même, qui sait, un cadavre.
Ouais.
Et puis, ils vont rien trouver non plus. Donc, c'est vraiment le mystère qui plane pendant plusieurs mois suivant sa disparition, même année. Donc, c'est assez particulier. Toujours rien depuis ce moment-là. Toutes les communications ont été arrêtées aussi du point de vue du téléphone de Caitlin, et même évidemment il n'y a pas eu de transactions bancaires non plus dans son compte. Donc sa vie numérique s'est complètement arrêtée ce jour-là. Et tu disais toi aussi que l'inspectrice en fait Williams avait même de la difficulté à dormir parce qu'elle était bafouée elle aussi par cette histoire-là.
Ah oui, les premières semaines et mois de l'histoire, puis même je lisais un article récent sur elle où ce que les journalistes essaient de remonter l'affaire, et elle avait vraiment de la difficulté, comme tu disais, à dormir. Ça la préoccupait tellement parce que elle comprenait pas. Il y a plein de, tu sais, on dirait que tout pointe vers James, mais en même temps, ils sont pas capables de trouver quelque chose de cohérent. Tu sais, en cours, on le sait, faut avoir des preuves tangibles pour accuser quelqu'un, puis ils sont pas capables.
Oui, il y a ce que tu sais, puis il y a ce que tu peux prouver.
Ouais, exact. Puis le téléphone encrypté qui est pas possible de déverrouiller, qui contient sûrement la clé ou du moins une des clés du mystère, à cause de la loi, ils ont les mains liées. Je me mets à sa place à l'inspectrice, puis je comprends sa frustration, puis même ses insomnies qu'elle a eues, parce que ça, tu sais, c'est une femme, l'empathie. On dirait que c'est vrai que ça doit être dur pour les enquêteurs, hein, sur qui enquêtent sur des disparitions, parce que tu dois constamment dans la recherche de réponses, puis tu dois avoir tellement de points d'interrogation que,
ah oui.
Ça, honnêtement, moi, je les trouve bons et courageux, ces gens-là. Autre chose, on vous disait que sa mère était très impliquée sur les réseaux sociaux, mais elle ne lâche pas le morceau aussi. Elle et sa famille vont régulièrement laisser aller des ballons dans le ciel près de où est-ce qu'elle a disparu, pour de un, que sa fille ne tombe pas dans l'oubli, et de deux, au cas où que Caitlin pourrait remarquer les ballons et reviendra à la maison. Là, souvent, ils ont des messages dessus, lui disant qu'elle est la bienvenue de revenir à la maison et tout ça. Donc, c'est je trouve ça triste. C'est,
oui.
Mais en même temps, je la comprends, la mère, de pas lâcher le morceau, parce que elle peut pas vivre de deuil. Hein. C'est toujours la même chose aussi pour les parents. Lorsque leur enfant, même si c'est une adulte, disparaît, tu peux pas faire de deuil tant que le corps a pas été retrouvé ou que t'as pas de réponse.
Non, c'est épouvantable.
À la disparition. Ça doit être épouvantable. Puis faut que tu continues à vivre. Hein. T'as pas le choix. Là. Ces gens-là ont pas le choix d'être résilients. Mais ça doit habiter continuellement.
Ah, j'en doute pas. Creusons un peu là, sur, évidemment, sur James Brenton, qui est notre principal suspect dans cette histoire-là. Vous allez voir, là, l'étau va se resserrer solidement sur lui. Là. Essayons de le comprendre un petit peu plus. James, lui, ne s'est jamais présenté au travail le 5 décembre là, à la base navale de Dahlgren, ni plus jamais.
Ouais, c'est ça qui est weird.
Ça, c'est assez étrange. De un, apparemment qu'il devait rentrer cette journée-là. Mm-hmm. C'était bel et bien prévu. Ses employeurs ont confirmé qu'il devait se présenter au travail, mais il l'a juste jamais fait. On se rappelle, il devait aller porter Caitlin à l'aéroport et revenir à temps pour 15 heures quand son shift commençait. Mais il n'y est jamais allé. Donc, il a carrément calé malade, il est pas rentré. Puis même, il est retourné au travail 6 mois plus tard, après la disparition de Caitlin, et il est retourné chez un autre employeur. Donc, il a plus jamais remis les pieds sur cette base navale-là.
Ça, c'est bizarre. Ça me bluffe complètement parce que je comprends pas.
Oui, est-ce qu'il y aurait des collègues qui auraient quelque chose à voir là-dedans? Est-ce mm-hmm. qu'il y aurait... Est-ce que la base navale serait impliquée? Je sais pas, c'est bizarre ça.
Ah, je sais pas, moi j'avais des idées de viol collectif et tout ça, tu sais, qu'on dirait qu'il me venait en tête dans un dans, j'avais une hystérie mentale, là, mais tu sais, on dirait que je comprends pas son comportement de ne pas être retourné au travail, tu sais. Le travail a pas de lien, puis il bave un peu les autorités en voulant pas ouvrir son téléphone. Donc, c'est, il y a des comportements, je trouve, qui sont contradictoires d'une certaine manière.
Vraiment, vraiment. Parlons-en un peu de ces comportements-là. Bien que James ait collaboré au début de l'enquête, il a bien vite cessé là, d'être collaboratif. Il n'a jamais participé aux recherches, rappelons-nous, qui était quand même assez près de Caitlin.
Oui.
C'est quand même lui qui était digne de confiance pour aller la porter à l'aéroport. Là. Tout allait bien, là. Mais malgré ça, là, il n'a jamais contacté la famille. Il ne s'est pas du tout agité là, de cette disparition. Il me semble quelqu'un qui est le moindrement impliqué émotivement va aider la famille. En plus, apparemment, qui aidait Lisa et Caitlin dans le passé, même quand ils étaient séparés. Donc,
ouais.
C'est vraiment, vraiment louche. En plus de ça, là, il présente vraiment plusieurs signes suspects qui jouent pas du tout en sa faveur. Le genre de preuve circonstancielle est quand même assez là, accablant là, dans son cas à lui.
Oui.
Là. Son téléphone, on l'a dit, il est encrypté par un logiciel, puis il refuse de donner son code d'accès. Les autorités ont affirmé avoir tenté à maintes reprises auprès de plusieurs agences de décrypter le téléphone, mais sans succès. Puis c'est particulier quand même de pas pouvoir briser un téléphone comme ça. Je connais pas assez ça, mais c'est-tu vraiment impossible à défaire, quoi?
Ah, c'est très difficile, en fait. Généralement, les clés d'encryption de téléphone, c'est soit sur des clés de... C'est un peu de technique, 34 bits ou 32 bits ou 64 bits, etc. Mais en fait, un ordinateur régulier, avec la puissance qu'il y a, c'est pratiquement impossible. Maintenant, il y a certaines encryptions qui sont décryptables, mais avec un ordinateur quantique. Et ça, c'est un, je suis pas un expert là, mais c'est un méga ordinateur là, tu sais, qui que de plus en plus des entreprises comme Microsoft, Google ont développé cette technologie là, mais c'est encore dans les laboratoires. Mais ça a une technologie de puissance incroyable. Puis on n'est pas encore rendu là pour, disons concrètement, pour décrypter une clé. Mais c'est ça, c'est que c'est fait pour ne pas être brisé. C'est vraiment fait pour être un gros cadenas là, très très solide. C'est ça l'objectif, que même l'informatique puisse pas la défaire, cette clé-là.
Est-ce que c'est une genre de clé où ça le téléphone, le contenu du téléphone va disparaître si on réussit à la décrypter, quoi? Ou?
Ah, ben généralement, on sait comme pas hein, quel système d'exploitation qu'il y avait sur son téléphone, mais généralement, c'est que les téléphones, si tu fais trop d'essais, ben il peut, tout dépendant comment il est configuré, ben il peut swapper le téléphone puis enlever justement toutes les données ou bloquer carrément l'accès. Fait que les autorités n'ont pas le choix d'être... très prudent dans la mécanique pour essayer de le débloquer. Je sais qu'ils ont toutes sortes de techniques, mais ça peut prendre des années à ce qu'un ordinateur teste des clés, en fait, avant de trouver la bonne clé, parce que le nombre de combinaisons, et je ne sais pas le chiffre, ça dépend vraiment de chaque type d'encryption, mais c'est des milliards de possibilités, donc c'est très, très difficile à ouvrir.
Apparemment que lui utilisait un téléphone Android justement parce que c'était plus facile pour lui de mettre son propre système d'exploitation. Donc, il semblait assez geek là, pour manipuler tout ça, là, pour changer le système d'exploitation de son téléphone.
Oui, c'est pas hyper complexe, mais oui, comme tu dis, faut être un peu geek parce que...
Faut vouloir le faire,
oui.
Faut avoir des raisons de le faire.
Oui, exact.
Moi, c'est un peu ça qui me bafoue là-dessus. Là. Par quel phénomène un gars de la Virginie qui vit seul, qui a presque pas d'amis, qui n'a rien à se reprocher, garde un cellulaire là, qui est autant... encrypté, là. Donc, il y a clairement quelque chose à cacher, selon moi. Là.
Oui, à savoir, est-ce que ça a un lien avec Caitlin? Ça, on ne le sait pas non plus.
Non, exact.
Parce que c'est peut-être autre chose. Il y a peut-être d'autres secrets qu'il ne veut pas partager non plus. Là.
Exactement. Il a également là, accepté un polygraphe, de passer un polygraphe, puis il a refusé le jour même là, en disant à la mère de Caitlin qu'il ne voyait pas en quoi cela pouvait les aider. Et ce jour-là, il a même aussi contracté un avocat donc pour l'aider dans ce processus-là. Mais on se rappelle que lui, apparemment, il a rien à se reprocher. Donc, c'est particulier d'accepter un polygraphe puis de le refuser ensuite, tu sais.
Ouais, c'est bizarre, surtout qu'au départ, justement, il acceptait pour être disculpé, t'sais, pour justement qu'il soit
ouais,
plus
blanchi.
Oui, exactement, qu'il soit plus une personne d'intérêt. Là, il change de bord selon son avocat. Est-ce qu'il a été honnête avec son avocat, puis selon la vérité ou ce que son téléphone pouvait contenir ou ce que lui savait, est-ce que... Tu sais, un avocat, c'est là pour protéger son client, hein, même si c'est un criminel. Là, donc, puis ça, on le sait pas, qu'est-ce qu'ils se sont dit. Là, donc, ça aussi, ça ajoute un mystère de plus sur la couche.
Selon les registres d'appels du téléphone de Caitlin, il est aussi le seul membre de son entourage qui a pas tenté de l'appeler ce jour-là.
Ouais, ça aussi c'est bizarre, surtout que c'est lui supposément qui l'a déposé à l'aéroport, au centre commercial. Il devrait s'inquiéter, là.
c'est
ça
clair.
Ça fait pas de sens.
Sa maison, son véhicule et son ordinateur ont été fouillés. Lorsque les policiers ont saisi son ordinateur, il leur a demandé s'il pouvait garder le disque dur, ce que les policiers ont refusé tout de suite. Son ADN a également été recueilli, mais il n'y a rien de concluant pour le moment qui en est sorti. Encore plus étrange, et là c'est assez bizarre, il n'a jamais demandé aux policiers de lui retourner ses affaires là, qui ont été perquisitionnées. Donc ils ont perquisitionné des armes, justement son téléphone portable qui est toujours aux exhibits là-bas, son ordinateur, même des draps, des objets de la vie de tous les jours, puis il n'a jamais demandé à les ravoir.
Ah ça, moi ça me bluffe aussi. Cet homme-là est un mystère complet. Je comprends pas. C'est la seule conclusion que je vois de ça, c'est que ça lui rappelle trop de souvenirs de la situation, puis il veut pas revivre ça, mais en même temps
qu'est-ce qui est vraiment arrivé, hein? Et même Caitlin, sur son téléphone à elle, avait une application pour crypter ses messages textes sur son téléphone qui avait pas encore été analysée. Mais est-ce qu'elle aussi avait quelque chose à cacher? Parce que ça devait pas être WhatsApp, là, cette application-là, ça devait être autre chose.
Oui, ben j'imagine. On dirait que ça là-dessus, je sais que de plus en plus de gens utilisent des messageries encryptées, on dirait pour éviter d'intercepter par quoi que ce soit. Donc, étant donné qu'elle était peut-être un peu geek, puis peut-être aussi qu'elle envoyait, tu sais, peut-être entre elle et sa copine, ils s'envoyaient peut-être des photos coquines. Ça protège d'une certaine manière. Donc, on dirait que pour Caitlin, je le vois pas nécessairement comme si elle avait quelque chose à cacher, mais juste
une protection.
Oui, exactement, comme plein de monde le font, là.
Puis en plus de tout ça, ben tu sais, si on rajoute des éléments comme quoi, ben le téléphone de Caitlin, il a jamais pigné loin de la maison de James.
Non.
Donc tout porte à croire que du moins l'action s'est passée vraiment autour de la maison de James ou près de Fredericksburg où la valise a été retrouvée. Donc il semble pas avoir été très loin là, dans cette journée-là. Là. Donc c'est vraiment très louche. C'est pourquoi James demeure quand même le suspect principal dans tout ça. Puis depuis ce temps-là, tout l'entourage de Caitlin là, a été très déçu, évidemment, du comportement de James parce qu'eux, ils connaissaient, puis il y avait une bonne relation avec lui. Là. Mais tout le monde croit qu'il y a vraiment quelque chose à cacher. Lui, il ne parle plus à la famille de Caitlin ni à ses proches. Et apparemment qu'il est de plus en plus muet et isolé. Donc, il a pas refait sa vie, par exemple, avec quelqu'un d'autre. Il habite toujours seul. Apparemment qu'il a vraiment très peu d'amis, là. Et le 10 octobre 2017, donc près de 2 ans après la disparition de Caitlin, sa mère Lisa va même tenter là, une dernière approche en allant porter là, une lettre manuscrite sur la porte de James pour lui demander de parler. Je vais vous la lire rapidement. Elle va comme suit. « James, j'ignore pourquoi tu ne veux plus me parler ni à personne d'autre. Si tu étais innocent, tu aurais déjà parlé depuis longtemps. Je ne sais pas comment tu peux vivre avec toi-même. Tu n'as jamais tenté d'aider à la retrouver. Est-ce que cela te fait au moins quelque chose? Ça fait près de 2 ans qu'elle a disparu et j'ai besoin de réponses. Tu m'en dois tellement. Tu la connais depuis qu'elle a 9 ans et j'ai toujours cru que tu l'aimais, mais tu ne le montres aucunement. Il faut que tu parles. Est-ce que tu te sens au moins un peu concerné? Tu te comportes comme un lâche. Je te faisais confiance, James. Pourquoi ne l'as-tu simplement pas déposé à l'aéroport? Que lui as-tu fait? Tu sais qu'elle ne serait jamais disparue comme ça sans contacter personne. Elle a manqué toutes les étapes importantes de la vie de son filleul, Landon. Ce n'est pas juste pour elle et pour lui, ni pour Gabby, ni pour moi. Je ne lâcherai jamais tant qu'elle n'est pas retrouvée. Et c'est signé Lisa. Hélas, malgré ce cri du cœur, là, cette lettre va être reçue dans l'indifférence totale. James ne donnera jamais suite à Lisa et ne communiquera jamais avec elle après cette fameuse journée de décembre 2015. Là. Et ça fait mal, ça.
Ah, c'est tellement triste, là. T'sais, puis je la comprends, j'aurais écrit le même genre de lettre si ça m'était arrivé. Puis, t'sais, le fait en plus, on dit souvent que le silence est une arme qui fait mal, mais oui. T'sais, dans ce cas-là, là, ça a dû y faire encore plus mal qu'il réponde pas à sa lettre, qu'elle a quand même pris la peine de décrire à la main Elle n'a pas envoyé un email. Là,
puis elle n'est pas hostile, là, sa lettre.
Non, elle est quand même... Elle est un peu passive-agressive, mais je comprends le ton. Là, elle a raison. Là, de, ses questionnements sont valables.
Mais
c'est ça, lui... c'est quasiment surprenant que ce soit pas suicidé, des fois, quand j'y pense, à de James. Parce que, tu sais, le fait de s'isoler continuellement, d'avoir de moins en moins d'amis, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui le torture au quotidien. Là, pour vivre comme ça, c'est pas un comportement humain normal habituellement. Mm-hmm.
Je pense que c'est aussi intéressant là, de se plonger un peu plus sur ce qui s'est passé cette fameuse soirée, là, la veille de sa disparition, parce que évidemment, ben, y a plusieurs des amis de Caitlin qui ont parlé aux autorités puis qui ont donné un peu plus de détails sur cette fameuse soirée-là.
On se rappelle qu'elle avait écrit à Amber qu'elle l'avait trompée et qu'elle se sentait mal. Selon les amis de Caitlin, alors que la soirée était entamée et qu'ils étaient légèrement intoxiqués, le couple s'est apparemment jeté sur elle et ont commencé à avoir des ébats sexuels tous ensemble. Il semblerait qu'ils ont tous un peu regretté après les faits. On le sait souvent avec l'alcool, on fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait normalement. Elle aurait d'ailleurs texté un autre ami ce soir-là en lui disant « Je ne veux être ni ici, ni être là-bas ». Est-ce que Caitlin vivait des problèmes intérieurs ou même des problèmes de couple, c'est à se le demander, là, parce que ça, c'est vrai que c'est bizarre aussi. Là.
Ben c'est fort probable. Là. À 19 ans, t'es pas loin de l'adolescence encore. Hein? On a tendance à penser à Caitlin comme une adulte responsable dont tous les comportements ont des raisonnements, mais faut pas oublier que c'est une jeune femme qui sort à peine de l'adolescence. Puis quand t'es adolescent, ben oui, tu fais des erreurs, oui, t'expérimentes avec certaines choses de la vie, puis en même temps, c'est une époque où le moindre petit drame peut devenir vraiment tragique dans une vie.
Hein. Oh oui, c'est vrai.
Donc, c'est pas long qu'un événement peut faire boule de neige. Donc, faut pas non plus prendre cet événement-là trop au sérieux. Mais c'est possible que, justement, Caitlin vivait certains problèmes intérieurs puis qu'elle n'en parlait pas à tout le monde.
Oui, exact. Tout ça complique quand même les choses. Est-ce que ça se pourrait que le message qu'elle a envoyé à sa fiancée Amber soit finalement un vrai message? De la part de Caitlin.
Oui, parce qu'elle dit qu'elle l'a trompé. Là.
Oui, exact. Sinon, si ce message-là provient de James comme on pense, il faut assumer que lui est au courant de cette situation-là, de cette histoire-là qui est arrivée la veille.
Ce fameux ménage à trois.
Oui, est-ce qu'elle lui a dit dans l'après-midi, justement, ou plutôt en matinée lorsqu'ils ont été toutes seules? C'est à savoir, tu sais, mais pourtant, selon les témoignages de son entourage, Caitlin, elle se sent pas toujours confortable en sa présence.
Mm-hmm.
Est-ce que la culpabilité, le remords... fait en sorte qu'elle s'est confiée à lui pour vrai, puis lui a utilisé ça par la suite pour un peu... parce que ça blanchit un peu les pistes aussi, hein, ça d'une certaine manière, ben, du moins ça dévie un peu la piste de la disparition, là, le message qui est arrivé en soirée. Donc, reste à savoir. Les amis de Caitlin refusent de croire que cet incident l'aurait poussé à partir. Tu sais, c'est pas assez gros, là, tu sais, pour vraiment quelqu'un quitte sa vie. Là. Eux, ils croient que oui, il est possible qu'elle ait eu honte ou qu'elle se soit sentie très mal, voire même dépressive, mais la connaissant, elle aurait préféré assumer ses erreurs et faire face à la réalité au lieu de partir. Ça semble pas être dans son tempérament, en fait, de ce qu'on comprend du témoignage de ses amis.
Non, exactement. C'est très étrange, cette soirée-là. T'sais, est-ce que, justement, comme tu disais, est-ce qu'elle en aurait parlé à James puis lui aurait utilisé ça un peu contre elle, tu sais?
Ouais.
Est-ce que lui aurait utilisé cette porte-là pour, je sais pas, moi, lui faire des avances en pensant qu'elle était ouverte,
ouais.
Tu sais? Je sais pas trop, là. On dirait que ma pensée s'en va dans des raccoins un peu malsains de la nature humaine, tu sais? Mais on dirait que moi, j'aurais pas tendance à croire que Caitlin lui aurait parlé de ça, surtout si elle avait un peu honte. Mais parfois la confiance des gens à qui on parle pas souvent est une bonne confiance.
Non, exact. Puis quand t'es en situation vraiment extrême, là, elle était toute seule avec lui, ça devait lui ronger la conscience aussi d'une certaine manière. Fait que ça se peut que ce soit confié à lui. On dirait que je l'écarte pas malgré tout, mais j'ai eu les mêmes pensées que toi, un peu malsaines, à savoir est-ce que lui en a profité de ça.
Oui.
C'est pour l'agresser.
On va creuser un peu là, la relation qu'elle avait avec Amber, parce que justement, est-ce que Amber pourrait avoir quelque chose à se reprocher là-dedans, tu sais? En réalité, il semblerait que Caitlin et Amber ne filaient pas le parfait bonheur, là. Ils se sont souvent séparés par le passé. Il semblerait que Amber aussi, elle avait un bon caractère, là. Ils se sont fiancés à 18 ans, ce qui est quand même assez jeune.
Oui.
Et leur relation était une vraie montagne russe, selon leurs amis, là. Lorsque les choses allaient bien, ben, elles étaient vraiment sur un nuage de bonheur, mais lorsque ça allait moins bien, c'était un véritable enfer. Donc, ça pouvait être vraiment difficile. C'était un couple qui était très, très polarisé. Là. Parfois, ouais. ça va bien, parfois, ça va mal. Caitlin et Amber étaient connues là, pour dire là, parfois des choses assez dures l'une envers l'autre. Amber a été aussi là, sous la loupe, puisque évidemment, elle s'est remise en couple très rapidement après la disparition de Caitlin. Il semblerait que peu après la disparition, Amber aurait découvert un secret chez Caitlin qui l'a choquée et elle en serait restée là, amère, là, ce qui peut-être aurait accéléré sa mise en couple
mais
ça, par la
suite. On le connaît pas, hein, ce secret-là.
Je le connais pas non plus,
hein,
non.
C'est vraiment mystérieux, ça aussi.
Exact. Donc, Amber a été jugée rapidement là, par les proches de Caitlin qui ont un peu, pas jeté le blâme, mais qui lui ont lancé un peu un doigt accusateur. Mais ceci dit, Amber, là, elle est pas du tout suspecte dans cette affaire-là. Là. Elle était vraiment en Arizona, là, des milliers de kilomètres plus loin lorsque Caitlin a disparu. Et elle n'a rien à voir avec cette disparition-là.
Non, c'est ça.
Absolument pas. Il y a aussi un autre cas, en fait, qui semble être une histoire un peu éloignée de la vie de Caitlin, mais on sait, hein, parfois, toutes les hypothèses méritent d'être investiguées dans un cas comme celui-là. Lorsqu'elle était au secondaire, Caitlin a maintenu là, pendant un certain temps une relation avec un homme plus vieux qu'elle, apparemment. Donc, cet homme-là aurait été plus âgé, elle était au secondaire. Et apparemment que cet homme-là aurait été très méchant avec elle. C'est quelqu'un qui est connu quand même de la région. Là. Il a même tenté là, de l'extorquer à un certain moment en la menaçant de publier en ligne des photos là, dites scandaleuses que Caitlin lui aurait envoyées là, sur une page Facebook pour que justement ses amis en prennent connaissance, là, pour faire circuler des mauvaises rumeurs à son endroit. Là. Mais est-ce possible que cet homme louche ait quelque chose à voir avec sa disparition, qu'il ait repris contact lorsqu'elle était dans la région ou quelque chose comme ça? Je le sais pas. Tu sais.
Hey, c'est bizarre, hein? Puis moi, à chaque fois que je revois des histoires d'extorsion, de sextorsion comme ça, là, ça me vire tout le temps à l'envers.
Oui.
Donc, elle a été victime de ça, elle aussi, là, tu sais, d'une certaine manière, c'est triste, tu sais. Puis lui, on n'a pas son identité, hein, à ce monsieur-là ou cette personne-là, du moins.
Ben nous, on l'a pas. Il est connu de ses amis, puis ça, de ses proches, tout mais... ça. Mais non, c'est pas ressorti. Puis il semblerait pas que les policiers aient aussi investigué cette piste-là. Là. C'est pas ressorti dans les nouvelles.
Là, ouais, c'est exemple. Ça. C'est pas une personne d'intérêt, là. Malheureusement, mais c'est ça. Mais c'est vrai que ça reste. D'une certaine manière, il peut rester un suspect. Tu sais, peut-être qu'il est au courant là, qu'elle est en ville. Là, si c'est encore son ami Facebook, elle a dû publier un statut qui indiquait qu'elle était en ville. Là. Fait que effectivement, c'est un peu louche. T'sais. Est-ce qu'il y aurait eu, si je vais un peu loin, est-ce qu'il y a eu un partenariat avec James dans cette histoire-là?
Pas, hein?
Parce que là, on parle toujours de James, mais est-ce qu'il a fait. Ben, s'il a fait ça, est-ce qu'il était tout seul? On n'a toujours pas cette réponse-là non plus. Là.
Donc, plus aucune nouvelle depuis. James est toujours en liberté. Évidemment, c'est pas lui le coupable, ou si il s'agit d'un cas de meurtre, mais il y a possiblement un criminel qui court encore.
Ouais.
Donc, c'est très étrange. On a fait quand même le tour de la timeline.
Ouais.
Moi, je suis encore bafoué par cette histoire-là. Je veux remercier par la bande aussi là, The Vanished
oui.
et Crime Junkies, qui deux excellents podcasts qui, eux, ont fait des interviews
ouais.
avec la mère de Caitlin, Lisa. Et moi, je trouve ça cool. J'aime ça voir quelqu'un d'impliqué comme ça qui accepte de donner des interviews aux médias puis aux podcasteurs.
Ouais.
Un peu comme la mère de Emma Philippoff, là, Shelley, qui est très, très active. La mère de Lisa, c'est un peu pareil. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour, on l'aura en interview.
Ouais,
mais moi, je trouve ça intéressant parce que ça donne des munitions aux journalistes, ça permet de donner plus de visibilité au cas, puis ça fait en sorte que l'histoire meurt un peu moins. Donc, avant de passer à nos théories, Seb, si vous voulez avoir plus de détails là-dessus ou même contribuer, il y a une page Facebook
ouais.
qui est Help Find Caitlin Akins que vous pouvez rejoindre. La mère de Caitlin est active là-dessus, ses proches aussi. Donc, si vous voulez contribuer, vous avez, je sais pas, à tout hasard, des indices là-dessus.
On sait jamais.
Oui, eh bien, vous pouvez contacter ce groupe Facebook-là, cette page Facebook-là pour vous rassembler. Toi, Seb, qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là?
Ah, moi, cette histoire-là, ça... Moi, j'ai vraiment l'impression que James a un rapport avec ça, là, même que c'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il l'a violé? Est-ce qu'il l'a tué par la suite? S'est débarrassé du corps? Je le sais pas. Est-ce qu'il l'a aidé à disparaître? Ça, on dirait que... J'y crois pas tant que ça, tu sais, que c'est une disparition volontaire. C'est trop bizarre, là, avec l'inscription à l'école. On dirait que ça fait pas de sens dans ma tête que ça soit une disparition volontaire. Mais moi, Le point, c'est le téléphone encrypté.
Oui, qui est au centre de tout ça.
Oui, parce que ça pourrait régler bien des choses, hein, si on avait accès au téléphone. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, là, justement, dans la même année, en 2015, là, il y a eu une tuerie de masse qui a eu lieu à San Bernardino, en Californie. Puis les autorités ont saisi le téléphone du tueur, puis il était encrypté, puis ils n'ont jamais été capables de le décrypter. Ils ont fait des demandes à Apple. Apple a toujours refusé de décrypter le téléphone, justement, pour tout ce que je vous expliquais, la vie privée. Ils veulent pas briser la confiance de leurs clients. Même ça, c'est allé même au niveau juridique plus haut. Il y a personne qui veut, du moins, forcer les autorités ou forcer les compagnies de téléphone à mettre des backdoors, comme je vous dis. Mm-hmm. Je suis déchiré. Je suis vraiment déchiré avec ça parce ouais. qu'il y a le côté Edward Snowden, là, tu sais, qui, justement, que c'est les backdoors qui permettent qui ont permis à espionner un peu tout le monde. Mais en même temps, quand des criminels s'en sortent à cause de ça, parce que je faisais quelques recherches, là, puis il y a une tonne de criminels qui s'en sortent à cause des téléphones cryptés, puis que les autorités, ils ont les mains liées, puis ils peuvent rien faire au niveau légal.
Ouais, c'est troublant, ça.
C'est ça qui me trouble le plus de cette histoire-là, parce que je suis convaincu que la clé est là. Puis James, ben, des fois, je trouve que les autorités policières, ils n'ont pas assez de pouvoir. On dirait que dans ce cas-là, tu sais, pas quand je voudrais aller vers la torture ou des techniques ouais. d'interrogatoire plus sévères, mais je trouve ça bizarre. Ils sont pas capables d'aller chercher du jus de lui aucunement légalement. Donc ça, c'est ça qui me dérange le plus. Parce que je suis convaincu qu'elle est morte, en fait. De mon point de vue, je suis convaincu qu'elle a été tuée et le corps a été jeté à quelque part. Et toi, Emile, qu'est-ce que t'en penses de tout ce cas-là?
Ben, moi aussi, j'ai pas le choix d'aller dans la même direction que toi, dans le sens que tout pointe vers James. On dirait que j'ai pas tant que ça tendance à crier au meurtre tout de suite. Je trouve qu'il y a pas assez d'indices. Il y a pas d'indices reliés au corps qui a été retrouvé, ou rien en lien avec l'ADN. Donc ça m'inquiète un peu, là. Ouais. J'ai pas tendance à crier au meurtre trop rapidement, mais c'est vrai que c'est une hypothèse qui est très probable, là, surtout sachant qu'il y a aucune trace numérique que Caitlin a laissée par la suite, aucune transaction dans son compte de banque, elle n'a pas été revue, et c'est quelqu'un qui était pas prédominé à disparaître, tu sais, elle avait un avenir prometteur, elle était même, elle avait hâte d'aller à l'école le lundi suivant, mais malgré tout, j'ai pas l'impression que c'était quelqu'un qui souhaitait disparaître volontairement. Mais c'est clair que James sait quelque chose. Est-ce que c'est lui le coupable, ou est-ce qu'il y a des complices, ou est-ce qu'il a tenté de se sauver d'une situation fâcheuse? Je le sais pas, tu sais. Mais je sais qu'une hypothèse que j'ai vue sur Reddit, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus sur Reddit, puis c'est une hypothèse que je trouvais qui était pas si fausse que ça. C'était celle que James pourrait être un cyberprédateur.
Ouais.
Dans le sens que, bon, c'est peut-être pour ça que son téléphone est autant encrypté, c'est peut-être justement parce que ça serait peut-être possible qu'il ait tenté de harponner des gens en ligne, étant donné qu'il est hyper reclus sur lui-même, qu'il vit en isolement, tout ça. Ça se peut qu'il y ait une présence en ligne très forte, mais que tout ça soit caché via un genre de jardin secret. Cette hypothèse-là, ben, l'utilisateur Reddit disait, ben, faut pas se rappeler que Caitlin, il y a pas de lien de sang avec elle, tu sais. Puis exact. À 19 ans, elle a l'air quand même jeune. C'est quand même, elle pourrait avoir l'air de 16 ans, là, Caitlin, mm-hmm. quand on voit des photos. Oui. Donc c'est bizarre un peu. J'ai l'impression qu'il y a peut-être ce côté-là un peu cyberprédateur. Je trouvais que cette hypothèse-là allait un peu loin. C'est même de lui donner potentiellement d'autres victimes. Mais j'ai l'impression que j'avais tendance à pouvoir y croire à cette hypothèse-là, parce que je trouve que c'est pas si fou que ça.
Non, c'est vrai. Hein? J'avoue que j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que les choses qu'il a cachées sur son téléphone n'ont peut-être même pas rapport avec avec Caitlin, en fait. Ou qui n'ont pas rapport dans le sens directement vers elle, mais que ce qu'ils pourraient y trouver pourrait faire un lien, par contre. Un peu comme tu le dis, j'avoue que j'avais pas pensé. Mais ça me fait soulever un autre point. Techniquement, ils étaient allés la reconduire. Est-ce qu'ils ont vérifié l'ADN dans la voiture?
Ouais. Moi, il me semble
je pense que oui, mais tu sais, ils ont peut-être pas trouvé d'ADN de Caitlin, mais il me semble généralement, dès que tu te trouves à quelque part, tu perds l'ADN, entre guillemets, là.
Oui.
Des poils, des cheveux, de la peau. Donc ça aussi, je trouve ça étrange que le véhicule n'a pas été... en tout cas, du moins, je suis convaincu que les enquêteurs l'ont fait. Il a dû rien avoir, mais c'est drôle que ça, c'est jamais sorti non plus. de vérifier est-ce qu'elle est bien sortie de la maison, oui. Est-ce qu'elle est entrée dans la voiture ou non. Là.
On dirait que c'est un cas où je suis convaincu que les policiers connaissent la réponse, mais ils n'ont juste pas ce qu'il faut pour l'amener en cour. Puis, je sais pas, est-ce que tu penses qu'éventuellement les ordinateurs quantiques pourraient régler un cas comme ça, tu sais?
Techniquement, oui, les ordinateurs quantiques peuvent le faire. Je pense que la preuve serait plus valide en cour. Mais ça, je peux me tromper, là, je suis vraiment pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que cet aspect-là aussi, oui, il y a l'aspect technique, mais il y a l'aspect aussi législatif. Mais les ordinateurs quantiques, c'est pas accessible non plus tant que ça, tu sais, fait que c'est... On dirait que ça, je sais pas ça serait quoi la solution, mais ça reste actuellement en 2019, c'est une impasse dans beaucoup de cas, là.
Mais je pense qu'on a fait un peu le tour de l'histoire, mon cher Seb. On vous remercie, les Distordus, d'être toujours à l'écoute. Et puis, si vous voulez plus de détails, vous pouvez rejoindre la page Help Find Caitlin Akins sur Facebook. Et vous allez voir, vous pouvez discuter avec des gens qui sont un petit peu plus impliqués. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre, Distorsion Podcast sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On est Distorsion Pod sur YouTube aussi. Et merci de nous donner des reviews 5 étoiles. Merci de nous encourager avec la tournée de bière, d'acheter notre livre et aussi ne manquez pas là, notre show de télé chaque semaine à moi et compagnie à 20h30 les mercredis.
Oui. Est-ce que t'as un mot de la fin pour nous, mon cher Émile?
Rien ne sert de vous cacher. L'ère numérique ne ment jamais.
Oh!